7h44, à Paris, une heure de moins en temps universel. Un œil tout de suite sur les grands titres de l'actualité internationale.
RFI, toute l'actualité, Julien Coquel-Roem.
Une réunion du G7 aujourd'hui pour demander un gouvernement inclusif et non sectaire. Une tournée diplomatique du secrétaire d'État américain. La Syrie toujours au cœur des discussions internationales, 5 jours après la chute de Bachar el-Assad et la prise du pouvoir par les rebelles dirigés par le groupe islamiste HTS. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, s'est entretenu hier avec Recep Tayyip Erdogan en Turquie. Tous les acteurs en Syrie doivent respecter les droits des groupes minoritaires, estime notamment le chef de la diplomatie américaine, alors qu'Ankara souligne ses préoccupations sécuritaires vis-à-vis des forces kurdes qu'elle considère comme terroristes. La Syrie, où Israël a mené ces derniers jours des centaines de frappes ainsi qu'une incursion dans la zone tampon à la frontière avec le Golan occupé, Anthony Blinken évoque la volonté israélienne de ne pas voir les armes du régime Assad tomber entre de mauvaises mains. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se dit très préoccupé par les violations importantes de la souveraineté et de l'intégrité territoriale syrienne. Et puis l'armée israélienne qui continue aussi ses bombardements sur la bande de Gaza. La défense civile annonce 58 personnes tuées en 24 heures et notamment 12 agents chargés de la sécurité de camions d'aide humanitaire. Quelques heures avant ces frappes, l'Assemblée générale de l'ONU appelait à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel dans l'enclave. Bonjour Catherine Potet.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
La revue de la presse africaine est à la une aujourd'hui, une miraculée retrouvée au milieu de la Méditerranée.
Sa photo circule sur Internet ces dernières heures, entourée par des secouristes, enveloppée dans une couverture de survie. On aperçoit seulement le haut de son visage et ses yeux ouverts. Il s'agit d'une fillette de 11 ans, nous raconte Africa News. Originaire de Sierra Leone, elle a été sauvée en Méditerranée après avoir dérivé pendant plus de 2 jours. Elle faisait partie des passagers d'un bateau en métal parti du port de Sfax en Tunisie avant de sombrer sous l'effet de fortes tempêtes, poursuit Africa News, qui cite l'ONG Compass Collective selon laquelle la fillette a passé 24 heures dans l'eau accompagnée de 2 autres personnes avant que celle-ci ne disparaisse. Après avoir dérivé seule, accrochée à 2 chambres à air, elle a survécu encore pendant 2 jours avant d'être secourue par le Trotamar 3, un navire humanitaire battant pavillon allemand qui l'a entendue appeler à l'aide dans la nuit. Lors de son sauvetage, précise Africa News, la fillette était en hypothermie méconsciente. Ses compagnons de voyage, 40 de personnes, sont portés disparus. Selon l'ONG Méditerranée Saving Humans, 2050 migrants sont morts ou portés disparus en 2023 en tentant de traverser la Méditerranée, la route migratoire la plus meurtrière au monde.
Direction le Burkina Faso, aujourd'hui 13 décembre 2024, cela fait 26 ans que le journaliste Norbert Zongo a été assassiné.
26 ans après, la vérité se fait toujours attendre, titre Le Pays. Et après tant d'années, poursuit le quotidien burkinabé, la vérité se fait d'autant plus attendre que le dossier reste toujours pendant en justice après avoir connu de nombreux rebondissements en 2 décennies. Le principal suspect, François Compaoré, frère de l'ancien président Blaise Compaoré, réside en France et il n'est visiblement pas disposé à venir s'expliquer devant la justice de son pays, remarque le quotidien qui ajoute « Aujourd'hui, des voix s'élèvent de plus en plus pour demander un procès par contumace » tant les chances de voir François Compaoré se présenter de gré ou de force devant le juge burkinabé pour apporter plus de lumière dans ce dossier s'amenuise au fil des ans. Le pays tient toutefois à saluer le travail des organisations de défense des droits humains et un combat engagé sous l'angle de la lutte contre l'impunité et la défense des libertés démocratiques. Cette année encore, conclut Le Pays, comme chaque année depuis 25 ans, les activités de commémoration de ce douloureux événement ne manqueront pas. Il faut éviter de tuer une seconde fois Norbert Zongo, qui avait mis sa plume au service de la vérité et des plus faibles et dont les éditos restent plus que jamais d'actualité.
Enfin, Catherine, peut-être une explication au sujet de la mystérieuse maladie qui a fait plusieurs dizaines de morts dans la région de Panzi, dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo.
La maladie mystérieuse pourrait être le paludisme, titre Africa News. Plus précisément, explique le site d'information, ce syndrome grippal pourrait être dû au paludisme d'après les résultats d'échantillons de laboratoire prélevés sur des personnes infectées. Selon le docteur Jean-Jacques Mouyembe, directeur général de l'Institut national de recherche biomédicale de Kinshasa, il est très probable qu'il s'agisse du paludisme car la plupart des victimes sont des enfants. Les symptômes comprennent la fièvre, les maux de tête, la toux et l'anémie. Ceci étant, l'enquête n'est pas terminée en raison du manque de capacité d'analyse locale. Des échantillons prélevés sur place ont été transportés à Kikwit, à plus de 500 km de la zone de Panzi. Une région, rappelle Africa News, qui présente des niveaux élevés de malnutrition et une faible couverture vaccinale qui rend les enfants vulnérables à toute une série de maladies, dont le paludisme.
Merci Catherine Potet, à tout à l'heure. Une enquête indépendante et impartiale, c'est ce que demande en Guinée Amnesty International, qui dénonce le silence actuel du gouvernement sur la bousculade meurtrière du 2 décembre dans le stade de football de Nzérikoré et dont le bilan reste incertain. 56 morts selon les autorités, 135 selon les organisations locales. Tout est parti d'un match de foot organisé en l'honneur du chef du régime militaire de la transition, le général Doumbouya. Y a-t-il trop de politique dans le sport? Oui, nous répond ce matin l'ancien footballeur camerounais Joseph-Antoine Bell, consultant de RFI. Il répond aux questions de Christophe Boisbouvier.
Joseph-Antoine Bell, bonjour.
Bonjour.
Le drame de Nzérikoré, au moins 56 morts à la fin d'un match de football. Qu'est-ce que ça vous inspire?
On ne va pas au foot pour mourir. Donc c'est forcément bien qualifié de drame, mais c'est véritablement triste.
Et une personnalité en tribune qui fait annuler la décision de l'arbitre. Est-ce que vous avez déjà vu ça dans votre carrière?
Oui, malheureusement, venant toujours de personnes du même type. De toute façon, c'est quelque chose qu'on voit presque jamais. La première des choses qu'on apprend lorsqu'on joue au foot ou lorsqu'on le regarde, c'est que les décisions de l'arbitre sont souveraines. Personne n'a le pouvoir de descendre sur le terrain pour décider à la place de l'arbitre.
Dans une interview à RFI la semaine dernière, le premier ministre guinéen, Ba Houri, a reconnu, je cite, « de l'improvisation et de l'impréparation de la part des organisateurs du match de Nzérikoré ». Est-ce à dire que ceux-ci ne connaissaient rien au football?
Mais déjà, ça m'aurait étonné que le premier ministre, qui est un homme intègre que je connais, ne dise pas la vérité. Ce qu'il dit là est la pure vérité. Pour que ça se passe ainsi, c'est que ceux qui ont organisé, c'est peut-être pas qu'ils ne connaissent rien, mais ne se préoccupaient pas du foot, se préoccupaient plus d'autres choses que de football.
Et quand il y a des dizaines de milliers de spectateurs, on n'improvise pas l'organisation du match.
Non, à chaque événement, vous prenez des spécialistes de cette organisation-là. C'est pour ça qu'on pense que les fédérations sont outillées pour organiser, qu'elles ont l'habitude. Mais si vous évitez la fédération, vous devez prendre des gens qui leur ressemblent. Par exemple, vous arbitrez un match de village, mais avec un arbitre à la retraite, mais pas avec un arbitre improvisé. Donc là, apparemment, rien n'était bon. Comment peut-on amasser des gens dans un stade qui aurait une seule sortie, et comment peut-on avoir lancé des lacrymogènes dans une foule qui est dans un endroit où il n'y a pas moyen de fuir ces gaz lacrymogènes qui vous piquent?
À l'origine du drame de Nzérikoré, il y avait donc un tournoi au terme duquel les organisateurs devaient remettre au vainqueur le trophée Mamadi Doumbouya, du nom du président du régime de transition. Est-ce qu'ici, le football n'a pas été instrumentalisé à des fins politiques?
Oui, et c'est là le problème, c'est qu'ils avaient pour objectif la politique et ils ont oublié le moyen qui était le foot. S'ils avaient mis des spécialistes du foot, le résultat serait le même pour eux. C'est-à-dire, on a la récupération, il y a quelque chose qui est bien fait, et puis voilà. Il n'est pas interdit de faire ça, mais il est interdit de mal faire. Mais le problème avec ces gens-là, ils disent toujours travailler pour le chef de l'État, c'est qu'ils décrètent qu'ils ont toutes les compétences.
Y a-t-il trop de politique dans le football, Joseph-Antoine Bell?
Oui, parce que ça se rejoint, la politique a besoin de public, et le football a une grande popularité, donc draine beaucoup de public, et donc c'est presque logique que la politique fasse un saut pour récupérer le football, puisque la popularité du foot en fait une proie facile.
Mais la séparation des pouvoirs, le président de la République d'un côté, les instances de football de l'autre, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est un vœu pieux qui n'arrivera jamais?
Je pense qu'au lieu de parler de séparation des pouvoirs, il faudrait parler de collaboration. Donc le pouvoir a besoin du sport, le sport a besoin du pouvoir aussi, mais il faudrait que ce ne soit pas les mêmes même qui s'occupent de tout, sauf que les politiques, eux, ont du pouvoir et que ce pouvoir-là, il est très tentant de se l'arroger pour tout et de décréter qu'on peut tout, qu'on sait tout.
Alors, à la suite de ce drame, plusieurs organisations internationales ont réagi, notamment la CDAO, mais on n'a pas entendu la CAF, la Confédération africaine de football.
Précisément parce qu'aucune association de la Confédération africaine de football n'était concernée. Et là, il n'y avait pas d'arbitre ni CAF ni FIFA dedans, il n'y avait aucun officiel CAF ou FIFA.
Mais vous n'attendez pas de la CAF un coup de gueule après ce drame ?
Pourquoi la CAF viendrait-elle pousser un coup de gueule en Guinée si la Fédération guinéenne ne pousse pas d'abord de coup de gueule ? Donc, je pense que ce sont plutôt ceux qui, en pratiquant ce sport, en dehors de ceux qui en connaissent les règles et l'organisation, qui doivent apprendre la leçon et retenir que désormais, pour organiser quelque chose, ils associeront la Fédération guinéenne de football.
Joseph-Antoine Bell, merci.
Joseph-Antoine Bell sur RFI avec Christophe Boisbouvier, notre grand invité Afrique à retrouver comme chaque matin sur RFI.fr et sur notre application Pure Radio. Bientôt 7h en temps universel sur RFI avant le journal, votre sourire du vendredi, la parlotte de Charlotte. Avec vous Charlotte Ntamack, on parle aujourd'hui des fêtes de fin d'année qui font de décembre le mois le plus stressant du calendrier.
Oui, si le mois de décembre marque la fin de l'année, chaque jour de décembre est un jour de stress qui vous rappelle que l'année n'est pas encore finie. En décembre, le stress grandit chaque jour qui passe car, et oui, il n'y a pas plus stressant que le mois de décembre. Le plus stressant en décembre, c'est de résoudre l'équation à une inconnue. Comment passer les fêtes de fin d'année ? Qui dit fêtes de fin d'année dit argent des fêtes. Alors, à quoi ressemblerait un décembre sans argent ? Man, l'année si ça va être chaud, hein. Là où le boss ne nous a pas encore libérés, là, on va même fêter comment ? En décembre, tout est fait autour de vous pour augmenter le niveau de stress. Allô chérie, ça fait longtemps, hein ? Eh qui est ? Chérie, je te bloque comment ? Tu as essayé de me joindre, ça ne passait pas. Ah, j'avais perdu mon téléphone. Voici alors décembre, on dit quoi ? Si Noël, c'est la fête des enfants, comme on le dit, par les temps qui courent, à l'approche de Noël, la simple vue de vos enfants suffit à augmenter votre stress. Comment leur faire comprendre l'avantage économique de porter les mêmes vêtements de Noël dernier quand tous les enfants du quartier ont des biens habits tout neufs ? Comment convaincre les siens que même si chaque famille est censée manger à sa faim, l'essentiel c'est de ne pas mourir de faim en fin d'année ? Chérie, est-ce que parce que c'est décembre, on est obligé de manger le poulet. Le poulet de décembre qui est cher là, a un autre goût que les autres poulets de l'année. Hein? Les embouteillages décembrement stressants, les magasins bondés et l'augmentation des prix ne sont pas pour baisser votre stress. Stress entretenu à longueur de journée par la radio ou les baffles placés pour l'occasion devant les boutiques. En boucle résonne toujours dans vos oreilles un « Mon beau sapin, roi des forêts » qui vous rappelle que vous n'avez pas encore installé un sapin dans votre salon ou un petit papa Noël qui vous martèle qu'à quelques jours de Noël, vous n'avez toujours pas fait le plein de cadeaux par milliers que vous feriez semblant de faire descendre du ciel. Le stress de fin d'année atteint son summum quand nos déstresseurs de fin d'année nous abandonnent en plein décembre. Allô, tu arrives quand ? Tu avais dit que tu venais passer les fêtes ici, non ? Ah, les billets sont trop chers. Savent-ils, nos chers mbenguistes, le stress qu'ils nous causent en annulant leur voyage, alors qu'en venant fêter avec nous, ils viennent nous aider à fêter ? Décembre, mois de tous les stress, tenons bon jusqu'à l'année prochaine. Décembrement vôtre et à vendredi.
À vendredi, Charlotte, et merci. Allez, oui, on va tenir encore quelques petites semaines avant 2025. Bientôt 7h en temps universel. Et le journal dans 2 minutes. À tout de suite.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Originaire d'une tribu nomade dans le Sahara, Bérouk est l'un des grands écrivains de la Mauritanie d'aujourd'hui. Un auteur de langue française qu'il a découverte à l'âge de 13 ans en lisant Victor Hugo. Installé désormais à Nouakchott, il m'a reçu cette semaine pour un grand entretien chez lui, une émission exclusive.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Tout à l'heure, à partir de 13h30 TU.
RFI. La marche du monde, Valérie Nivelon.
Elles s'appellent Jane et Paulette Nardal et elles incarnent la modernité noire dans les années 20 et 30. Petites filles d'esclaves nées en Martinique, elles font partie des premières étudiantes antillaises à Paris. Vous ne connaissez pas leur nom et pourtant, Jane et Paulette Nardal sont les autrices d'une œuvre d'avant-garde, pionnière de la négritude.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
À samedi à 14h10, temps universel sur RFI.
Vous portez un projet numérique favorisant l'accès universel à l'eau et à l'assainissement, la conservation et l'exploitation durable des mers et océans en Afrique francophone?
Participez à la 9e édition du concours Challenge APAfrique avec RFI et France 24 et bénéficiez d'une dotation financière pour le développement de votre projet.
Candidatez dès aujourd'hui et jusqu'au 26 janvier 2025 sur appafrique.rfi.fr.
Un jour au village, Penaï Traoré.
En République démocratique du Congo, 8 ménages sur 10 utilisent le manioc dans l'alimentation quotidienne. Mais ce tubercule est attaqué depuis plusieurs années par des maladies ravageuses, dont la maladie des nécroses racinaires. Quelles conséquences sur la culture du manioc en RDC?
Un jour au village, avec Penaï Traoré, tous les samedis à 13h10 TU sur RFI.